Les podcasts de Radio Vatican.
L'Afrique est au cœur des attentions. C'est lundi 12 et mardi 13 juin 2017 à Berlin où la chancelière allemande Angela Merkel rencontre une dizaine de dirigeants du continent. Ces deux jours, organisés dans le cadre de la présidence allemande du G20, doivent permettre de créer un futur convenable aux jeunes Africains et ainsi réduire la pression migratoire, dit une porte-parole de la chancelière. Avec cette conférence, nous offrons aux pays africains une plateforme pour rentrer en contact avec des investisseurs et renforcer l'engagement du secteur privé en Afrique, a précisé le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble dans un communiqué. L'ONG de lutte contre l'extrême pauvreté One vient de publier un rapport sur les opportunités liées à l'explosion démographique de la jeunesse africaine. Sa directrice internationale pour le G20, Frédéric Roder, souhaite un plus fort engagement privé, mais aussi public des puissances mondiales, notamment en faveur de l'éducation.
Une première historique que le G20 mette l'Afrique à l'agenda. C'est une opportunité à saisir parce que la population africaine va doubler d'ici à 2050, ce qui était une énorme opportunité aussi pour le G20 et le monde entier. Par contre, pour saisir cette opportunité, il faut agir dès aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle le G20 à faire. Et il faut notamment investir massivement dans la jeunesse du continent. Donc ce que nous on propose, c'est que le G20 s'engage à doubler les investissements d'ici à 2020, notamment pour tout ce qui est éducation, emploi et l'émancipation de la jeunesse africaine.
Alors pour l'instant, l'Allemagne semble vouloir plutôt attirer des investissements. Ce n'est pas une solution suffisante ?
En fait, les Allemands se concentrent notamment sur les investissements privés. Et si les investissements privés peuvent en effet être un facteur important pour créer de l'emploi sur le continent, sous certaines conditions bien évidemment, ils ne sont pas suffisants. Ce qu'il faut également, c'est des investissements publics, notamment pour l'éducation. Un investisseur ne viendra seulement dans un pays où il sait qu'il y a des gens formés, éduqués, qu'il peut employer. Et donc il y a nécessité aussi d'investir dans l'éducation sur le continent, et d'ailleurs notamment l'éducation des filles qui ont davantage d'obstacles pour accéder à l'éducation aujourd'hui. On estime qu'il y a presque 100 millions d'enfants aujourd'hui qui ne sont pas scolarisés en Afrique. C'est déjà énorme et avec l'évolution démographique, il y en aura encore plus. Donc il est vraiment urgent d'agir et ce que nous on espère, c'est que le G20 prenne des engagements forts en termes d'éducation, notamment primaire et secondaire et pour les filles.
Où en est-on justement en matière d'aide publique au développement, notamment des pays du G20 justement ?
Il y a un engagement international qui est d'allouer 0,7% de la richesse nationale à l'aide publique au développement. Et c'est cette aide publique au développement qui pourrait par exemple permettre aux 100 millions d'enfants africains qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'école d'y avoir accès. Donc c'est très important et malheureusement on est encore loin du compte. Si on prend par exemple l'exemple de la France, on est seulement à 0,38% de la richesse nationale allouée au développement. L'Allemagne a atteint l'objectif international l'année dernière, mais en fait c'est pas suffisant, il faut aussi d'autres pays comme la France par exemple fassent de même. C'est pourquoi nous on demande à ce que le G20 adopte cet objectif de doubler les investissements privé et public d'ici à 2020. Il faut les deux, il ne faut pas se concentrer seulement sur les investissements privés, il faut aussi l'investissement public et ça passe par l'aide publique au développement.
En période de restrictions budgétaires, par exemple notamment en France, quel intérêt les pays auraient-ils à augmenter cette aide au développement ? Quelles sont les raisons qui pourraient les pousser à le faire ?
Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui qu'on vit dans un monde interconnecté, qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe sur notre continent voisin. Et d'autant plus, c'est aussi dans notre intérêt de ne pas fermer les yeux devant cette évolution démographique parce que dans quelques années, ça pourrait s'avérer être notre opportunité aussi à nous, économiquement, à décoller. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est investir aujourd'hui parce que cette évolution démographique est en train de se faire pour aussi préparer l'avenir qui est aussi le nôtre. Parce que dans quelques années, la croissance mondiale va venir de l'Afrique. L'Afrique va être le continent le plus jeune, le plus dynamique, le plus innovant. Et c'est à nous de préparer cet avenir commun. Il y a bien évidemment l'argument des restrictions budgétaires, mais cet argument ne tient pas du tout parce que, en fait, l'aide publique au développement aujourd'hui, par exemple en France, ne pèse qu'1% dans le budget national. 1%, c'est vraiment pas beaucoup. Et comme je dis, c'est vraiment un investissement à long terme dans notre avenir commun avec l'Afrique.
Certains craignent que cet investissement public et privé entraîne un nouvel accaparement des ressources africaines. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est en effet un risque. C'est pourquoi on dit aussi que les investissements privés sont très utiles, par exemple, pour créer de l'emploi, mais seulement si ces investissements se font sous certaines conditions. Donc, ce qui est également très important, c'est pas seulement de parler d'investissement et de flux financiers, mais aussi parler de règles de transparence, par exemple, qui doivent régir ces flux financiers. Parce que, en effet, il y a ce risque, par exemple, de l'accaparement des terres. Il y a aussi le risque de violation de droits de l'homme, de corruption. Il ne faut pas fermer les yeux devant ces risques. Et il y a en fait des textes internationaux qui existent et le G20 doit les adopter pour s'assurer que les investissements se font dans les bonnes conditions et contribuent en effet au développement du continent et créent de l'emploi pour la jeunesse.
Vous avez parlé de règles, de garde-fous, c'est justement ces textes internationaux ?
Oui, alors je vais vous donner un exemple très concret. L'Afrique, chaque année, perd 87 milliards de dollars à cause de flux financiers illicites. Donc, c'est-à-dire à cause du blanchiment d'argent, la corruption, l'évasion fiscale. C'est des sommes énormes qui, du coup, ne peuvent pas être taxées, ne peuvent pas être investies, par exemple, dans l'éducation, dans la santé, dans la création d'emplois. C'est un énorme scandale qui a lieu aussi parce que en Europe ou en Amérique du Nord, il y a toujours des possibilités assez faciles de créer des sociétés écrans et de blanchir cet argent issu d'évasion fiscale ou de corruption. Donc, en quelque sorte, nous sommes complices de ce scandale financier. Et aujourd'hui, l'Union européenne est en train de négocier un texte pour lutter contre ces sociétés écrans. Plusieurs membres de l'Union européenne sont aussi membres du G20. La Commission européenne aussi participe aux négociations du G20. C'est la bonne occasion de montrer que le G20 aussi contribue en fait à assainir en quelque sorte les relations financières, réguler le système financier en prenant cette décision de lutter contre les sociétés écrans. Les relations avec l'Afrique, c'est aussi que nous, on régule mieux nos entreprises, qu'on essaie de mieux réguler la finance. Et donc c'est pourquoi il y a des solutions vraiment très concrètes de lutter contre le blanchiment d'argent qui peuvent être prises dès aujourd'hui.
Pour revenir au secteur d'investissement, vous avez parlé de l'éducation, il y en a d'autres ?
Alors nous, on parle d'une approche axée autour de l'éducation, l'emploi et l'émancipation. Parce que l'éducation est la base de tout. L'emploi, bien évidemment, parce que une fois un enfant éduqué, il a besoin de débouchés économiques. Mais bien évidemment, il n'est pas seulement acteur économique, mais il est aussi citoyen. Donc l'émancipation pour permettre à tout le monde de participer à la vie publique et notamment aussi s'assurer que les filles et les femmes aient les mêmes droits que les garçons et les hommes.
Les États d'une part, les entreprises de l'autre ont-ils vocation à financer ces trois domaines ?
Ce qui est très clair, c'est que l'éducation ne se fera pas sans investissement public de la part des gouvernements africains, mais aussi de la part du G20. L'emploi, c'est quelque chose qui ne se fera pas sans le secteur privé, mais qui doit être régulé par les gouvernements et qui a souvent besoin aussi d'être encadré et dirigé dans la bonne direction grâce à des financements et du soutien public. Et l'émancipation, là, on pense qu'à nouveau, il faut un partenariat en quelque sorte entre les pouvoirs publics, donc africains et internationaux, et le secteur privé, parce que l'émancipation, ça se fera aussi grâce aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui créent des initiatives en Afrique en utilisant leur téléphone portable. Ils essaient de savoir ce qui se passe dans leur municipalité, si par exemple l'argent du pouvoir central arrive à l'école, à l'hôpital, si le projet de développement XY est en train de se faire. Donc ils utilisent ces nouvelles technologies pour faire remonter des informations, pour demander des comptes à leur gouvernement, pour interpeller aussi des entreprises. Et donc ça, c'est quelque chose où, bien évidemment, le secteur privé sera très important pour avoir une pénétration plus importante d'Internet sur le continent et pourquoi pas aussi soutenir ces initiatives de jeunes, leur permettre par exemple d'avoir du crédit pour utiliser leur téléphone portable pour s'organiser. Donc je pense que les partenariats publics-privés, on peut en imaginer encore davantage que ce qui existe déjà aujourd'hui. Il faut de nouvelles idées et on espère que le G20 et la conférence d'aujourd'hui sera l'occasion pour aborder aussi un peu des sujets qui ne sont pas forcément à l'agenda, qui ne sont pas des projets classiques privés, mais qui sont très importants pour l'avenir de l'Afrique, mais pour notre avenir à nous ensemble.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.